Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro. Je vous parle en ce 13 juin, lendemain du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley. Et soyons francs, en matière de montagne russe, on a eu droit, écoutez, on était à la ronde ou Euro Disney là, pour les gens qui nous écoutent en Europe, parce que c'était tout un match avec plusieurs rebondissements hier, et j'en parle avec deux hommes qui étaient du côté du Ameren Bank Arena hier, Guillaume Lepage. Salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont. Salut JF.
Salut Nick.
Remis de vos émotions, messieurs, après ce match?
Calmement.
Tranquillement, pas vite.
Hein,
calmement, avez... pas vite.
Vous... Alors, ma question est la suivante. Lorsque Sam Reinhart a marqué le but qui a envoyé tout le monde en prolongation alors qu'il restait 19 points quelques secondes à faire en troisième période, étiez-vous encore sur la galerie de presse ou étiez-vous dans l'ascenseur qui mène au vestiaire de l'aréna, au vestiaire des deux équipes?
Non, on est resté parce qu'en Floride, on a le privilège d'avoir droit à un monte-charge. Donc, le monte-charge attend les journalistes après la rencontre. Fait qu'on peut, on peut vider la galerie de presse de façon assez efficace. Fait qu'on n'a pas besoin de descendre avant. Donc, on a pu rester en haut parce que, je sais pas, oui, on savait qu'il n'y avait pas de problème pour descendre, mais tu sais, de mon côté, il y avait quand même un petit sentiment que ce match-là n'était peut-être pas terminé parce que les Panthers poussaient, puis on avait l'impression que tu sais, surtout avec la lourde de la série, là, il y avait eu deux prolongations dans les trois premiers matchs. On se disait, ben c'est peut-être ce qui nous attend aussi ce soir, puis ça a été le cas, mais au moins, bon, on n'a pas tirer la sauce jusqu'en deuxième prolongation. On a réglé ça en première prolongation du côté des Oilers.
On restait sagement sur la passerelle de presse. Guillaume le disait. Là. On dirait aussi qu'il y a toujours le mauvais sort. Brett Kulak qui manque un dégagement dans un filet désert. Evan Bouchard, après ça, manque un autre dégagement dans un filet désert. Restait une mise en jeu en plus en territoire des Panthers. Paul Maurice replace Sergei Bobrovsky sur la glace. Bobrovsky prend son temps, c'est long avant qu'il rentre au banc, mais il reste une trentaine de secondes. Tu regardes le tableau, tu te dis « OK, c'est peut-être encore possible ». Sam Reinhart, qui marque le but égalisateur. Guillaume Lepage pousse un juron à ma gauche. François Gagnon aussi, d'RDS. Patrick Friolet.
Ouais, mais là, François,
tout le monde.
Guillaume
a vu beaucoup de matchs des Panthers. C'est une équipe combative. C'est une équipe qui n'abandonne jamais. Puis on en a eu encore une fois la preuve. Mais c'est le scénario inversé du match numéro 2, c'est-à-dire un but en fin de match, mais pas une victoire en prolongation. Donc, les Oilers ont finalement eu le dernier mot.
Tu disais Guillaume-François courut après?
Ouais, parce que François, je pense, avant le match, a prononcé le mot prolongation. Oh, et juste avant la troisième période, est venu nous voir, a fait le tour du groupe et a dit... On veut pas de prolongation. On dirait que François est une recrue, mais ben, c'est un membre du Temple de la Renommée.
C'est ça, j'allais dire. Des erreurs d'amateurs comme ça, alors que tu es au ça. Temple de la Renommée, on s'attend à plus là, de François Gagnon.
Ouais, mais tu te dis, la loi de la moyenne, il y avait déjà eu deux prolongations dans les trois premiers matchs. Non, ça n'arrivera pas une troisième fois. Oui, ça peut arriver une troisième fois. Il faut reculer à 2013. Les Bruins contre les Blackhawks... pour revoir une finale de la Coupe Stanley où trois des quatre premiers matchs se terminent en prolongation. Donc, pour des minutes supplémentaires, nous sommes gâtés dans cette finale de la Coupe Stanley.
Ouais, alors on parle de tout ça aujourd'hui dans cet épisode quand même qui va aller rapidement parce que, messieurs, vous avez un avion à prendre dans pas très long. Là, vous êtes avec chacun respectivement dans votre chambre d'hôtel, mais l'avion va s'envoler pour Edmonton à 3h cet après-midi. Là, vous commencez un beau gros marathon, là, votre plus beau marathon de l'année, un 36 heures aller-retour, Floride, Fort Lauderdale... Quoi, Fort Lauderdale, Charles... Montréal, après ça, Edmonton?
Non, Fort Lauderdale, Denver, Edmonton. Oh. Edmonton, Toronto, Floride, tout ça dans les 48 prochaines heures. Ce seront les 48 plus belles heures de notre vie.
J'aimerais qu'on survole rapidement l'aspect du voyagement parce que j'ai passé le déjeuner à chercher à remonter le moral de Guillaume. Il y a pire dans la vie, il n'y a personne qui nous écoute qui va pleurer pour notre sort. Ça fait partie d'une réalité d'une finale de la Coupe Stanley. Mais Guillaume, en mangeant son omelette ce matin, disons qu'il n'avait pas un sourire radieux. Ah. Hier, à 2h du matin, au retour de l'hôtel, le bon Guillaume a choisi de pousser de la fonte, question de chasser un petit peu de frustration. Moi, j'ai eu...
Mais toute cette frustration, j'aimerais préciser que toute cette frustration-là est dirigée vers celui qui a conçu cet horaire. Deux jours de congé entre le match 3 et 4 en Floride et une seule journée de voyagement entre le match 4 et 5.
Arrête donc, tu vas être en vacances plus vite que s'il y avait eu deux jours entre chaque match. T'es juste en train de chialer comme d'habitude.
Ouais.
C'est juste toi qui chiales parce Pierre-Jean-Jacques, là, on est heureux. Là, la finale va se terminer plus de bonheur. Les matchs sont plus collés. Juste toi. Là.
Ben, plus de bonheur, c'est trois jours. Là,
mais... Je suis dans l'autobus, je suis dans l'aréna avec Guillaume, je suis à l'hôtel avec Guillaume. Changeons de sujet. Ce sujet-là mènera nulle part. Mais... Je connais mon ami Guillaume. Mais on peut parler des Oilers, on peut parler des Panthers. Allons-y.
Il y a une bonne nouvelle, c'est que pendant que vous allez être dans les airs, vous allez pouvoir écouter notre balado spécial aperçu du repêchage qui a été aussi rendu disponible hier sur LNH.com, sur toutes les plateformes d'écoute.
Belle plug, Nick.
Ben, écoute,
c'est un excellent lien.
Merci beaucoup. balado.
Je sens les émotions dans la voix de Guillaume.
C'est son émotion de base. Là. C'est ce ton-là. Mais parce que vous n'étiez pas sur ce balado-là, j'ai fait ça avec Sébastien Deschambault, Jean-François Danfousse, le dépisteur du bureau central qui était avec nous aussi. Caleb Desnoyer, Justin Carbonneau, Bill Zonon qui font aussi leur apparition sur ce balado-là. Donc, vous deux et les autres auditeurs qui veulent se préparer pour le repêchage pourront écouter ça en même temps. Les gars, on y va tout de suite. On se lance sur ce match d'hier. Et ça regardait pas bien. Après la varlope, la dégelée, appelons ça comme vous voulez, que les Oilers ont reçu lors du match numéro 3, défaite de 6-1, on s'attendait à pas mal mieux que ça en première période, mais non, c'était le même rythme, le même beat qu'on a offert chez les Oilers. Étiez-vous surpris de voir une équipe aussi peu affamée dès le départ que l'étaient les Oilers?
Ben, surpris, oui. Puis ça faisait deux jours que les Oilers disaient « On va chasser de notre mémoire le troisième match. » On parlait d'un accident de parcours. Les Oilers venaient de tomber dans le piège des Panthers en y allant de trop de coups après les sifflets, mal gérer les émotions. Leon Draisaitl, le matin même du quatrième match, disait « Les Panthers ont joué leur meilleur match, mais pas nous depuis le début de cette finale-là. On va rebondir, nous avons trop de caractère, etc. » Après une période, c'est 3-0, mais c'est pas juste 3-0, c'est 17 tirs contre 8, si ma mémoire est bonne. C'est les Panthers qui envahissent le territoire des Oilers. Stuart Skinner, honnêtement, est l'agneau sacrifié. Skinner a réalisé de bons arrêts quand même en première, mais Chris Knobloch voulait y aller d'un changement, trouver une petite étincelle. On insère dans la formation Troy Stetcher. Stetcher commet un revirement. Oui, il se fait atteindre au visage par le bâton de Carter Verhaeghe, mais perd quand même sa bataille derrière le filet. Donc, l'effet Stetcher ne marche plus ou moins.
Il a joué.
L'effet Stetcher, je pense qu'on étire la sauce pas mal ici. Là. Je pense que personne s'attendait à un gros...
Guillaume, juste dans le sens que les changements que Knobloch souhaite apporter, ça marche pas en première période. Puis surtout à l'attaque, là, c'était jamais le même trio. C'était le boulier, on changeait tout le temps de combinaison. Puis boum, il y a un revirement en deuxième période. Guillaume a écrit à ce sujet-là. Il y a un ancien du Canadien qui a 40 ans, qui est vieux, qui en a déjà vu d'autres, qui a parlé. Et Guillaume, si tu veux jaser un petit peu de Corey Perry, qui lui disait qu'avec 30 secondes à jouer en première période, Perry a parlé aux médias ce matin du côté de la Floride, avec 30 secondes à jouer en première, ça disait qu'il n'avait pas le choix de parler. Question de motiver ses coéquipiers. Donc, le message de Perry a porté fruit.
J'ai hâte de voir si, si cet extrait-là va faire surface un jour ou l'autre, parce qu'on sait qu'il y a des caméras de télévision qui suivent les équipes là, dans le vestiaire, en coulisses, pendant cette finale-là. On se souvient l'an dernier, le discours enflammé de Connor McDavid qui a piqué une crise dans ce même vestiaire-là, au Amerant Bank Arena, dans le vestiaire des visiteurs. Je sais pas si Perry avait autant d'émotions, s'il a vraiment monté le ton, s'il a crié et tout ça, mais une chose est sûre, tous ses coéquipiers disaient, tu sais, qu'un gars qui a autant d'expérience, qui a autant de millage dans la Ligue nationale, qui a joué, c'est sa sixième finale de la Coupe Stanley, il a gagné une fois, quand ce gars-là prend la parole, tout le monde se tait puis on l'écoute. Puis je pense que tous les joueurs s'entendaient pour dire que ça a été un peu ce qui a viré, qui a fait tourner le vent de côté hier. En deuxième période, on est revenu avec beaucoup plus.
Faut que ça soit un méchant speech pour tourner ça comme tu t'en vas dire, là, Guillaume. Là.
Ouais, mais honnêtement, en deuxième période, c'était comme si c'était rien passé en première. Puis les Oilers étaient dans le coup. On a provoqué des punitions du côté des Panthers. Il y a eu de l'indiscipline, oui, mais en première période, les Oilers n'avaient aucune chance de provoquer une punition. Il n'y avait tout simplement pas la rondelle. Fait que c'était impossible de ce côté-là. En deuxième, on est revenu. On avait la possession de la rondelle. On a provoqué des punitions. On a marqué un avantage numérique. On dirait qu'on a vraiment réussi à effacer cette première période-là. Puis là, un but, puis deux buts. Puis là, on s'est mis à y croire. Puis le troisième but, ben, on le voyait tous venir là, à 3-2. Je veux dire, c'était comme une évidence que ça allait se produire. Mais non, ça a été impressionnant de voir à quel point on a réussi à tourner la page. Parce que, comme tu dis, c'était vraiment la suite de la dégelée du troisième match. Puis on pensait que les Panthers allait marcher vers la victoire assez facilement. Là. Puis en plus que les Panthers, c'est pas une équipe qui a l'habitude de laisser aller des avances comme ça. C'est une équipe qui, quand elle allait devant, capable de fermer les livres puis d'aller marquer le but qui va couper les jambes à l'adversaire. Puis hier, on l'a pas fait du côté des Panthers. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve à 2-2 dans cette série.
Puis l'autre élément aussi quand même important, ça reste le changement de gardien. Calvin Pickard a été très, très bon. 23 arrêts pour Pickard sur 24 tirs. Il y a juste le but de Sam Reinhart là, avec 19,5 secondes à jouer en troisième. Mais Pickard a vraiment fait son travail. Puis c'est ce que les joueurs des Oilers disaient après le match. Autant Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins. C'est assez phénoménal de voir sa capacité à sauter dans un match. Puis réussir, même s'il est froid, il n'a pas eu le temps de s'échauffer, réussir de gros arrêts. On peut penser à l'arrêt contre Anton Lundell en deuxième période. Si Lundell marque, il scie les jambes des Oilers, ça redevient 4-1. C'est pratiquement un autre match. Puis en prolongation, oui, Sam Bennett frappe la barre. Bing. Mais tu vois que Pickard effleure la rondelle juste assez pour changer la trajectoire. C'est un gardien qui a une fiche de 7-0. Pas besoin d'être un génie de mathématiques, là, mais 7 victoires, c'est le même nombre que Stuart Skinner. C'est la moitié des victoires des Oilers. C'est lui qui avait pris le relais quand ça allait pas bien pour les Oilers face aux Kings. Il a gagné 4 matchs d'affilée face aux Kings. Ses deux premiers matchs contre les Golden Knights, s'est blessé, a perdu son filet. Skinner est redevenu l'homme de confiance. Ça me fait un petit peu rire parce que je regardais ce que Chris Knobloch disait dans un chic hôtel de Fort Lauderdale ce matin. Puis Knobloch refuse de confirmer son gardien partant pour le cinquième match. Vous pouvez écrire le nom de Calvin Pickard. Je serais très, très, très surpris qu'il ne revienne pas avec Pickard pour le cinquième match.
Pas vraiment le choix, là. Surtout que ça a marché dans le passé, là. Puis je sais que c'est Calvin Pickard. Je veux dire, si Calvin Pickard devait mener les Oilers à la victoire, à la conquête de la Coupe Stanley, je pense que ce serait un des gardiens, je ne veux pas dire le plus faible, parce que ce n'est pas vrai, mais avec le plus petit résumé, l'expérience.
Ouais, le moins grand curriculum vitae.
Voilà, merci, là, je cherchais le bon mot, là, parce qu'au final, ça reste un gardien de Ligue nationale de hockey. Mais depuis, quel autre gardien avec un petit CV comme ça va avoir mené une équipe à la conquête d'une Coupe Stanley?
Il n'y avait pas le gardien des Flyers de Philadelphie là, qui avait éliminé le Canadien.
Michael Layton.
Oui, mais il n'a pas gagné la Coupe Stanley cette année.
Oui, il n'a pas gagné, mais ça, quand même, il y avait.
Mais je te parle, vraiment, là, une bague au doigt, une coupe au-dessus de la tête. Là, on est encore loin de ça, là, mais.
Mais on ne se retrouve pas, Nick, dans le bureau des Oilers, là, mais avant le quatrième match, il y a probablement eu de grandes discussions entre Knobloch, Dustin Schwartz, l'entraîneur des gardiens, à savoir qui sera le cheval pour le quatrième match. Ils ont finalement choisi de rester fidèles à Skinner, mais avec peu de patience. Puis encore là, je ne jette absolument pas la pierre sur Skinner. Les Oilers étaient tout croche en première période. Oui. Mais tu ne peux pas remplacer 18 joueurs. Tu peux remplacer un gardien. C'est ce que Knobloch a choisi. Puis écoute, l'électrochoc a fonctionné. Là. Pickard a été plus que bon dans le quatrième match.
Puis j'ai noté un commentaire de Knobloch après le match hier qui a dit c'était bien de le voir faire les arrêts quand on en avait besoin. Puis, ouais. C'était pas dirigé à Stuart Skinner, mais quand tu l'as entre les lignes, je comprends que Skinner avait pas grand-chose à se reprocher, mais dans les deux derniers matchs, il n'a pas réussi à faire l'arrêt important. T'sais, l'arrêt miracle que Bobrovsky a fait à certains moments de cette série-là, il n'a pas été capable. Tu peux te surpasser puis sauver un but à un certain moment, puis Skinner ne parvenait pas à faire ça. Hier, Pickard, je ne l'ai pas vu souvent à l'œuvre, mais c'est un gardien qui a un style, disons, un peu éparpillé. Là. C'est pas un modèle.
Un style un modèle à lui.
C'est pas la grâce incarnée devant le filet, mais il a fait les arrêts puis il était placé devant la rondelle. L'arrêt contre Lundell, ça en a été un. Il y en a quelques autres là, qui. Je vois les images, mais je me souviens plus que c'était contre quel joueur, mais. Il a fait les arrêts importants quand ça comptait pour garder les Oilers dans le match puis leur permettre de prendre les devants même en troisième période. Fait que pour moi, c'est impossible de revenir à Skinner après ça parce que bon, ça fait deux matchs que tu le retires de ton filet. Là. On est rendu dans un moment critique de cette finale-là. Puis celui qui est en mesure de gagner, qui est en mesure de faire les arrêts pour le moment, ben c'est Calvin Pickard. Donc, ce sera probablement lui devant la cage samedi. On est quelle journée? Vendredi? Ouais, donc, samedi, demain. Soir. Ouais.
Je regardais Pickard, c'est un gardien qui n'a jamais vraiment gagné grand-chose en plus, là. Même dans la Ligue américaine.
Non, mais écoute,
c'est un champion de la Coupe Calder. Mais écoutez, à moins que je me trompe, là, mais il avait seulement joué trois matchs cette année-là. Championnat du monde, c'est pas lui qui était devant le filet non plus, là, à moins que je me trompe. Là, donc, je vais pas me tromper, là, mais peut-être en 2017, là, ça se pourrait. Là, mais en tout cas, c'est pas. Ça vient tellement
en
de
série,
loin.
En série, selon AKDB, c'est 8 matchs éliminatoires avant cette année. Là, fait que
c'est assez simple. Là. C'est un gardien qui s'est battu toute sa carrière pour devenir un numéro 2 dans la Ligue nationale. Il a atteint cet objectif-là probablement juste l'an dernier à 31-32 ans. Cette année, il a été encore une fois un numéro 2, mais en série, quand on lui a confié le filet, ce n'est pas des statistiques extraordinaires non plus là, en termes de moyenne et de pourcentage d'arrêt, mais la statistique la plus importante, la colonne des victoires-défaites, tu peux pas renier le fait qu'il est 7-0. Là. Donc, ça, c'est gros pour les Oilers. C'est un luxe d'avoir un numéro 2. Puis, tu sais, il n'y a pas d'animosité non plus entre Skinner et Pickard. Ça reste deux bonnes personnes. Skinner va être le premier à lui donner une tape ses jambières, à l'encourager. Puis, je crois bien honnêtement qu'il est conscient du sort qui l'attend pour le cinquième match. Skinner, il va avoir une place au bout du banc du côté du Rogers Arena.
JF, tu es allé dans le vestiaire des Panthers après le match. Est-ce qu'on a l'impression du côté de la troupe de Paul Maurice qu'on a levé le pied en deuxième période, qu'on a perdu notre identité? Comment on expliquait ça, ce qui s'est passé? Là?
Un petit peu. C'est ce qu'on disait que bon, en deuxième, il y a eu une perte de rapidité. Ils étaient moins sur la rondelle, moins bons en échec avant. Paul Maurice, lui, a regardé une autre colonne de statistiques en disant en première période, on était plus 3 dans les punitions. en 3. Et jusqu'à la fin du match, les Panthers ont fini à moins 3. Donc, ils ont redonné un élan aux Oilers en visitant trop souvent le banc des punitions. Écoute, on essayait de rester philosophe, puis c'est difficile d'avoir de bonnes réponses dans un vestiaire après une défaite. Il y a à peu près 58 journalistes, 16 caméras, un Mathieu Tkachuk qui parle 4 minutes, un Sam Reinhardt qui parle 3 minutes, donc on n'y va pas non plus de longues réponses. Mais les gars préféraient dire « on s'y attendait, on savait que ce serait difficile, ça reste du beau hockey, ça reste du hockey intéressant ». Donc, il voulait se consoler du mieux qu'il pouvait, autant Mathieu Tkachuk, Karen Ekblad, etc. Donc, mais il n'y a pas eu de... Disons qu'on n'a pas décortiqué pourquoi il y a eu un effondrement en deuxième période.
Mais moi j'ai vraiment hâte de voir si les Panthers vont être en mesure de se relever de ça. Je sais qu'ils l'ont fait dans les dernières années. Ils ont vécu beaucoup d'adversité, mais... C'est en première période, GF, je t'ai dit, si les Oilers gagnent ce match-là, à 3-0, ils perdaient 3-0 à ce moment-là, j'ai dit, s'ils gagnent ce match-là, ils gagnent la série. Puis c'est la même chose du côté inverse. Si les Oilers, après deux périodes, font la remontée 3-3, finissent par perdre ce match-là, bien là, ça leur coupe les jambes, tu retournes 1-3 après avoir donné le plus grand effort de cette série-là, puis... Là, j'ai l'impression que c'est le plus gros défi là, des Panthers de vraiment réussir à effacer ça. Puis de. Moi, j'ai de la misère à m'expliquer comment, en première période, tu peux être un rouleau compresseur. C'était épouvantable. C'était une domination complète. Là. Les Panthers étaient dans la zone des Oilers 90% du temps. On avait la rondelle, tout ça. Puis là, en deuxième période, alors que tu as le contrôle du match, que tu es devant tes partisans, tu as la chance. Tu vois se dessiner l'avance de 3-1 dans la finale, puis tu t'écrases comme ça. C'était pas habituel des Panthers. Puis j'ai hâte de voir si on va être capable de revenir à nos habitudes puis de réussir à mettre ça de côté. Mais j'en doute, je pense qu'on a donné un bon élan aux Oilers
avec
ce
match-là.
Mais
en même temps, Guillaume, depuis le début de la finale, le rythme, change tellement rapidement.
Ouais,
après le 6-1 du troisième match, il y a quelques collègues qui disaient les Oilers sont maintenant morts et enterrés. Cette série, cette finale est terminée. Pour faire un petit clin d'œil à mon ami Renaud Lavoie. Mais les Oilers ont montré aussi qu'ils sont capables de rebondir. J'ai hâte de voir. Oui, c'est une défaite qui peut laisser des traces. Ça devient maintenant un 2-3. C'est ce que Mathieu Tkachuk résumait aussi hier après le match. Ça devient un 2-3. Puis là, les Panthers n'ont pas le choix d'en voler une, minimum d'une victoire du côté d'Edmonton. Donc, les Oilers reprennent l'avantage de la glace. La bonne nouvelle peut-être aussi du côté des Oilers, on n'a pas encore glissé un mot là-dessus, mais il y a des acteurs secondaires qui ont réussi à s'inscrire sur la feuille de pointage. Ryan Nugent-Hopkins, on ne parlera pas d'un acteur secondaire, là, mais Nugent-Hopkins semblait quand même ralenti par une blessure depuis le début de la finale. Hier, il a décoché un solide tir des poignets pour marquer le premier but. Il y a Darnell Nurse qui marque, il y a Jake Walman qui marque. C'est qui l'autre but? Vasily Podkolzin, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ouais, Podkolzin qui marque aussi. Puis, tu as Leon Draisaitl qui continue. Draisaitl, plus de 30 points pour une deuxième année d'affilée. Draisaitl qui marque encore en prolongation. Un quatrième but gagnant en prolongation. C'est un record. Quatrième but au cours d'une même année en série. Puis deux fois dans la finale de la Coupe Stanley. C'était pas le plus beau début, par contre, en prolongation. Là. Merci à Nico Mikola qui a redirigé la rondelle.
C'est le plus beau début en prolongation dans le sens que c'est tout le temps des buts tout croche en prolongation.
Ouais, mais c'est
parfait.
C'est ça. C'est lui qui a transporté la rondelle, donc il a mérité son bonheur, là. Il a travaillé pour son but. Donc, si tu as Draisaitl qui prend son élan, tu as McDavid aussi qui peut toujours être dangereux. Mais écoute, Guillaume me parle depuis le début là, comme quoi les Panthers ont de la profondeur, ils ont du talent. J'ai le discours inverse avec les Oilers, mais je dois avouer que troisième trio des Panthers, là, Lundell, Lusterainen,
oh
Marchand...
En prolongation, ils ont failli marquer deux,
ouais,
trois fois.
T'as Mathieu Tkachuk, je trouve qu'il commence à se réveiller aussi. Il y a deux buts, une passe du côté de Tkachuk dans le quatrième match. Donc, c'est pas juste non plus un ciel noir du côté des Panthers. Là. Ça reste 2-2. Puis bien honnêtement, très difficile de prédire quoi que ce soit dans cette finale-là.
Et je veux savoir, qu'est-ce qui fait le plus mal à une équipe selon vous? La défaite de 6-1 des Oilers ou celle-là d'avoir après avoir mené 3-0 pour les Panthers?
Ah, moi, je pense que c'est quand tu peux imaginer... Quand tu peux t'imaginer avec la victoire puis avec l'avance de 3-1.
Puis avec une avance de 3-1.
Tu sais, les Oilers...
3-0 même.
Les Oilers, ils n'ont jamais cru vraiment là, dans le sixième match. Dans le sixième match. Dans le troisième match. Fait que, tu sais, pour moi, tu n'as pas d'espoir. Tu ne te crées pas de scénario. Tu sais, je sais que les joueurs sont dans le moment présent puis on ne voit pas trop loin, mais tu sais, après une période hier, là, dans le vestiaire des Panthers, d'après moi, il y a quelques joueurs qui se sont dit « Hey, on a ça dans la poche, puis le prochain match, c'est pour la coupe. » Là, c'est sûr que autant tu veux rester dans le moment, autant tu as ces pensées-là qui te traversent l'esprit. Fait que de voir ça s'évaporer parce qu'en deuxième, t'es sorti flat, là, pour reprendre les mots des entraîneurs hier. Je pense que ça, c'est plus difficile à oublier, puis c'est plus difficile de s'en remettre. Je me mets dans ma propre situation. J'ai cru qu'on allait à Edmonton avec la chance de voir la coupe puis de rentrer à la maison dimanche. On dirait que ça a fait plus mal quand les Oilers ont dit « Non, on revient en Floride pour au moins un match 6. » Puis, tu sais, de la manière que ça se dessine, il n'y a pas une équipe qui est capable de coller deux victoires dans cette finale-là. Fait que ça pourrait se prolonger jusqu'à cette match.
Te connaissant, tu voulais revenir à Montréal à temps pour pouvoir regarder la F1, là, voir les voitures au centre-ville, aller te promener sur Peel.
Non, c'était surtout pour les francopholies, mais là, ça commence à disparaître là, du radar.
La clé pour les Oilers dans ce cinquième match-là va être encore une fois la discipline parce que ça fonctionne absolument pas le jeu à désavantage numérique présentement des Oilers. Elle va dire, durant toutes les séries, si on compare à l'an dernier, ouais, durant toutes les séries, on avait donné 4 buts en désavantage numérique. On est rendu à 23 taux d'efficacité depuis le début des séries de 66,2%, 14e sur les 16 équipes qui ont fait les séries. Est-ce qu'on a une piste de solution? Est-ce qu'on a abordé le sujet avec les Oilers? Je comprends que ça allait vite, pas à peu près en première période, mais comme tu disais, Guillaume, on se place dans ces situations-là, les Oilers, où on va devoir écoper de pénalités pour ralentir l'adversaire. Mais si en plus tu ne fais pas le travail en désavantage numérique, c'est pas long que ça peut prendre le bord.
Ben, c'est drôle parce que tu parles de ces stats-là, puis le sujet, là, à moins que je me trompe, là, Jeff, tu peux me corriger, mais le sujet vient vraiment pas à l'heure du jour. Le désavantage numérique, ça passe un peu sous le radar. Je pense qu'on place plus ça sur l'indiscipline. Knobloch a parlé beaucoup des punitions de bâton. Hier encore, je pense que les trois en première période, c'est des punitions de bâton. Puis on connaît l'arbitrage de série. C'est pas mal les punitions qu'on va appeler. Là. Quand le bâton est entre les patins d'un adversaire, c'est ça qui est
assez évident. Hein?
Ou dans le visage, exactement. Mmh. Fait que, tu sais, je pense qu'on parle beaucoup plus de l'indiscipline puis de l'importance de rester discipliné que de l'inefficacité du désavantage numérique. Mais c'est vrai que ça commence à être un problème parce que le jeu de puissance des Panthers est capable de faire tournoyer la rondelle assez rapidement quand même.
Oui, puis une première idée, là, ce serait pour Evander Kane d'essayer d'arrêter de visiter le banc des punitions en première période, match après match. Mathias Ekholm aussi, c'est une punition de bâton. Puis, c'est 66%, je pense, le taux d'efficacité des Oilers en désavantage numérique.
66,2%.
C'est très, très, très faible. Mais les Panthers ont quand même Sam Bennett, qui est le meilleur marqueur depuis le début des séries, qui joue au sein de la deuxième vague. Puis Carter Verhaeghe aussi, qui se retrouve au sein de la deuxième vague. Donc, c'est assez clair que ça reste une mauvaise idée de visiter le banc des punitions. Puis c'est la même chose du côté de la Floride. Là. Les Oilers, l'avantage numérique roule quand même. Là. Je pense que c'est 26%.
26%. Dire, les deux avantages numériques fonctionnent à la même vitesse ou à peu près. La différence, c'est que le jeu en désavantage numérique des Panthers est à 85,8%. Ouais. C'est là que ça se joue. Là. Au final, c'est un but de moins par match, mais c'est le but qui peut faire la différence.
J'irais pas jusqu'à dire que la seule raison de ça, c'est Sergei Bobrovski, mais c'est un peu ça. Non, il est capable de faire les gros arrêts, puis en désavantage numérique, on se fait répéter à longueur de saison que le joueur le plus important, c'est le gardien. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut on peut donner une grande part du mérite à Sergei Bobrovski, qui passe un peu sous le radar aussi dans cette série-là, parce que tu sais, il se marque des buts à la tonne, puis c'est des matchs serrés et tout ça, mais hier, c'est des arrêts sensationnels aussi. Puis je me souviens de l'arrêt sur Corey Perry du bout du patin. C'est vraiment impressionnant. Ce gars-là était devant le filet des Panthers pour tous les matchs de ces séries-là. Commence à avoir beaucoup de matchs éliminatoires derrière la cravate dans les trois dernières années. Puis malgré son âge, livre la marchandise. C'est vraiment, vraiment impressionnant ce qu'on est en train de voir de sa part.
Puis un facteur aussi, tu sais, Nick, tu parles de la discipline, de l'avantage numérique, des avantages numériques. Mais pour le cinquième match aussi, le duel de gardien, tu sais, moi, je m'attends à Bobrovski, Pickard, mais Pickard doit rester le Pickard qu'on a vu dans le quatrième match. Mm-hmm. Puis même s'il y a une fiche parfaite de 7-0, ça reste que le gardien avec la plus grande expérience va porter le chandail des Panthers et non pas celui des Oilers. Donc,
on verra. Je trouve pas qu'on sent de la fatigue chez Bobrovski. Ce qui est quand même surprenant.
Non, non, mais puis Bobrovski, son agilité, sa souplesse, c'est assez spectaculaire là, pour un gardien qui est avancé dans la trentaine. Là. Puis à l'entraînement, ouais. Guillaume l'a vu souvent, mais à l'entraînement, c'est un gars qui a du plaisir. Puis même dans la période d'échauffement, hier, Guillaume me disait, il m'a donné un coup de coude pour me dire, regarde, Bobrovski prend des échappées. Mais c'est ça, Sergei Bobrovski, c'est un gars qui a du plaisir, qui veut arrêter chaque rondelle. Panthers ont un très, très, très bon gardien. Puis Gustav Forsling aussi, combien de fois il va réaliser des jeux clés dans un match? Il n'y a pas un Gustav Forsling du côté des Oilers pour aider Calvin Pickard dans le prochain match.
Parlons-en du prochain match. L'avantage de la patinoire, ça va compter ou ça ne comptera pas? Je veux votre prédiction là, pour la suite, parce que c'est pas sûr qu'on va pouvoir se reparler d'ici la fin de la finale. On verra bien. Là. Je veux votre prédiction, votre analyse pour les trois prochains matchs.
Mais moi, je vais aller pour une première prédiction. Taylor Swift ne fera pas le voyage du côté d'Edmonton. Selon mes connaissances géographiques, Edmonton n'est pas aussi charmante que la Floride.
Attends une minute, là. Elle se tient à Kansas City la moitié de l'année, elle, là. Elle est habituée que c'est pas le glamour, là.
Non, 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 non.
Ah, mais faut quand même souligner avant de poursuivre que Taylor Swift était au match numéro 4
oui, hier, c'est ça,
avec Travis Kelce. De la grande visite pour...
De la royauté sportive et artistique, ouais. Disons-le.
Mais on l'a pas montré à l'écran géant, par contre.
Non?
On a fait jouer quand même quelques chansons dans les arrêts de jeu, mais on n'a pas souligné sa présence à l'écran géant. Je pense que... On craignait peut-être quelques huées parce qu'on est dans un État quand même...
Ouais, plus républicain.
Ah oui, c'est...
Bah, tu sais, on n'embarquerait pas dans la politique, mais je pense que ça n'aurait pas fait bon ménage.
Mais l'autre point aussi, à l'écran géant, on aime beaucoup présenter les « amazing statistics » qui se résument souvent à Alexander Barkov à 3 tirs jusqu'à présent en deuxième période où... Seth Jones a patiné à une vitesse de 22,4 milles à l'heure. Donc, disons que l'infographie, on a déjà connu mieux à travers la Ligue nationale et l'animation aussi à l'intérieur d'un match. Mais bon, c'est une petite parenthèse.
L'ambiance est assez différente entre Edmonton et la Floride. Il faut leur donner Edmonton. L'ambiance là-bas est assez solide. Dès le départ... Ouais. Tu sais, l'hymne national, chanté dans la foule, par la foule, ça donne le ton. Puis après ça, honnêtement, c'est leur chanson de but que j'adore. Là.
La Bamba aussi, la après Bamba, le match. Puis c'est un environnement hockey.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a un réel avantage? Pour l'instant, les deux équipes là, sur la route à la maison, c'est une fiche identique. Donc... Il y a l'avantage du dernier changement. Ça, pour Paul Maurice, ça peut représenter un casse-tête.
Fait que tu d'ailleurs, as-tu ta prédiction? Vas-y, Guillaume.
Ben, je voulais juste ajouter ça, mais on a parlé de la confrontation entre Barkov et McDavid. Barkov, dans cette finale-là, on peine à le voir sur la glace encore. Il n'a pas eu son mot à dire. Ben, défensivement, oui.
Il y a deux passes hier.
offensivement, c'est plus discret.
Est-ce qu'il est débordé par ses responsabilités défensives?
Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'impression que j'ai en ce moment. Tu sais, le Barkov qu'on a vu dans le match numéro 5 qui a fait le jeu extraordinaire pour mettre la rondelle sur la palette de Verhage sur le but gagnant contre les Hurricanes, on l'a pas vu encore. Tu sais, des flashs offensifs de Barkov sont assez minces dans cette finale-là. Donc, s'il y a un espoir du côté des Panthers, c'est peut-être le réveil du capitaine, le réveil offensif à tout le moins du capitaine.
Mais Picker de réaliser de bons arrêts contre lui en deuxième ou troisième période, là, Barkov a eu deux passes.
Mais c'est pas l'impact de McDavid et de Rysaito de l'autre côté. D'accord.
Mais sans dire long sur la profondeur de cette équipe-là où tu peux gagner malgré que Barkov ne fournit pas offensivement, puis malgré que Tkachuk n'est pas. C'est pas le Tkachuk de l'an dernier, là, ou même de l'année d'avant, là, ben, la portion où il était capable de sortir de son lit, là, parce qu'on se souvient qu'il était assez. C'était quoi? C'était une fracture du sternum, quelque chose comme
ouais,
ça?
Il y a deux ans, oui.
Oui, c'est ça, exact. Il y a deux ans, exactement. Mais les étincelles offensives viennent un peu moins de deux. Quoi que Tkachuk hier, oui, là, comme tu disais, ouais, Guillaume, il s'est réveillé. Là, c'est ça, c'était son meilleur match. Ça en dit long, tu sais, je pense pas qu'il y a autant de réserves dans toutes les sphères du jeu chez les Oilers, là, ça c'est assez évident.
Mais Nick, tu nous demandais de nous mouiller, oui. D'aller d'une prédiction. Là. J'aime les scénarios qui s'écrivent bien. Donc moi, je vais y aller pour les Oilers. Les Oilers gagnent le cinquième match et les Oilers viennent gagner le sixième match contre les Panthers en Floride.
Oh.
Donc c'est la rédemption au complet. L'an dernier, c'était la douleur de la défaite en Floride après un septième match. Et cette année, bien, on pourrait voir la Coupe Stanley dans les bras des joueurs des Oilers après un sixième match en Floride. C'était ma prédiction de départ, donc je garde la même prédiction. Je reste honnête avec ma prédiction.
Guillaume?
Même chose pour moi. J'ai dit Oilers en six, fait qu'on est au point où faut gagner les deux prochains matchs. Je pense que les Oilers ont le vent dans les voiles, même si le momentum, en série, ça, on peut en douter, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a fait mal aux Panthers hier avec cette remontée-là. Donc, je les vois gagner le prochain match. Puis après ça, ben match 6. J'ai dit en 6, donc je vais dire qu'ils vont gagner en Floride. T'sais, je pense que la foule n'est pas vraiment un facteur ici. Puis quand McDavid va voir le coffre avec la coupe dans l'aréna, ne laissera pas filer cette chance-là. Donc, je vois les Oilers coller deux victoires. Puis je le souhaite aussi parce que ça va nous éviter un retour à Edmonton, peut-être.
Ouais, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi sur ce plan-là, Guillaume, parce que moi je reste avec ma prédiction des Panthers en 7. Donc, je vous renvoie à Edmonton une fois de plus.
Ah, mais là, tu souhaites des malheurs parce qu'une défaite des Oilers en match 7 de finale de la Coupe Stanley à Edmonton, ça risque de ne pas être beau dans les rues autour.
Oui, oui, mais c'est vous autres qui allez être Edmonton, pas moi. Moi, les émeutes, ça ne me dérangera pas ou tout ça. Là, de toute façon, je pense que ça va être plus calme. C'était à Vancouver qu'il y avait eu une bonne émeute. Vancouver avait perdu puis il y avait eu une bonne émeute aussi, on se souviendrait. Je sais pas, vous souvenez de la fameuse
des
photo
voitures,
là.
Des...
Oui, mais la fameuse photo du couple
le baiser,
qui s'embrassait en plein émeute. Puis que c'était pas vraiment un couple, finalement, semble-t-il que c'était. Tu sais, il y a des romances d'estivales, eux, c'était une romance d'émeute. C'est un peu plus rare, mais en tout cas, pour ceux qui s'en souviennent, puis les autres, ben c'est pas plus grave.
On va souhaiter du calme quand même.
Ben, c'est ça. On souhaite toujours un peu de calme. Donc, ça risque d'être serré. Hey, les gars, avant de vous laisser partir pour votre avion, vous avez toujours deux minutes, deux, trois minutes de plus ou.
Ouais,
trophée de la Ligue nationale de hockey, Lane Hudson, trophée Calder, pas une surprise, j'imagine, pour vous deux?
Non, aucune surprise. Je crois que c'était le choix
évident,
logique, même si Macklin Celebrini ou Dustin Wolf avaient aussi de très bons dossiers. Mais de la façon que Hudson a transformé le Canadien cette année, 66 points, une participation aussi pour le CH en série. Bon choix, celui de Lane Hudson pour le Calder.
Et pour le Hart et le Vezina en même temps, Connor et le Buck, je pense pas qu'on réalise à quel point c'est une saison historique. Là. Hier, c'est moi qui m'occupais du texte de tout ça. Je dis, la saison de le Buck, là, on parle d'une des grandes saisons de l'histoire de la Ligue nationale pour un gardien. 47 victoires, c'est le troisième plus haut total, c'est-à-dire qu'il y a Braden Holtby et Martin Brodeur qui en ont déjà gagné 48. Brodeur, à une époque où il était devant le filet pendant 86 matchs par 72, saison. Hein, ça serait... c'était à peu près ça. Holtby qui avait connu une super saison, mais Hellebuck qui est allé chercher 47 victoires cette année et qui est premier dans à peu près toutes les catégories, sauf une, je crois que c'est la moyenne, taux d'efficacité. Taux d'efficacité qui est derrière Anthony Stolarz, mais Anthony Stolarz a juste gardé 34 matchs cette année, là, participé à 34 matchs. Hellebuck, pour le Vezina, c'était assuré. Mais pour le Hart, ça, êtes-vous surpris?
Ben, tu sais, ça a été, comme tu l'as dit, ça a été le joueur le plus utile des Jets, sans aucun doute. Après ça, ben, tu le compares aux autres joueurs de la Ligue. La charge de travail, je pense que ça compte pour beaucoup. Ouais. Là, puis c'est peut-être quelque chose que, bon, là, il a gagné le trophée Hart, là, mais là, à l'avenir, les Jets pourraient peut-être commencer à regarder pour réduire cette charge de travail-là. Mais cette année, c'est ça qu'on lui a donné. Il a répondu avec brio. Je pense pas qu'on parle des Jets comme d'une puissance de la Ligue nationale si Connor Hellebuck n'est pas devant le filet. Donc, pour moi, c'est quand même logique. Il y a quand même plusieurs autres grosses vedettes là, qui étaient en liste pour ce trophée-là. Mais
si tu regardes le Hart aussi, ce qui pouvait aider Hellebuck, Connor Hellebuck, après ça, c'est peut-être Kyle Connor, le joueur étoile chez les Jets, tandis que Leon Draisaitl qui termine deuxième. Ben, il partage le vestiaire avec Connor McDavid. Si tu regardes Nathan MacKinnon, il y a Kale McCarr.
Kuchera, si tu regardes Nikita
Kucherov, il y a Braden Point. Donc, quand on parle de la description joueur plus utile à son équipe, Hellebuck devient quoi? Le quatrième gardien à gagner le Hart et le Vezina la même année. Puis, il ne faut jamais oublier aussi, le vote se fait pour la saison. Donc, il n'y a aucune influence en série. Le choix d'Hellebuck me paraît... J'ai aucun problème aussi avec Hellebuck qui gagne le Hart et le Vezina.
Ouais, on soulignera aussi le vote de première place à Nick Suzuki.
Un collègue, un jeune collègue du Minnesota.
Qui a fait jaser.
Qui a voulu peut-être
Hier, en coulisses, quand les votes sont sortis, il y avait plusieurs collègues surpris, là. Qui se demandait c'était quoi un peu le processus, parce que dans ce bulletin de vote-là, Connor Hellebuck n'a même pas une place dans le top 5.
Nico Hischier avait une place dans son bulletin de vote. Donc, jeune collègue du Minnesota qui devra peut-être
être un peu moins audacieux.
Un peu ses devoirs.
C'est ça. Ben, c'est pas un concours d'audacité.
Je dis pas qu'il a fait ses devoirs. Moi, j'y faisais mes devoirs dans le temps. Ça veut pas dire que mes notes étaient bonnes, par exemple. Ça veut pas dire qu'il était bien fait, mes devoirs. Non. Mais il était fait, je rendais quelque chose au professeur. Non, comme tu dis, puis t'as parlé, c'est le fait que t'as pas Connor Hellebuck, le gagnant. Dans ton top 5, t'as Nick Suzuki qui... Puis j'enlève absolument rien à la saison de Nick Suzuki.
Le joueur le plus utile au Canadien,
exactement.
La deuxième moitié de saison.
Exactement. Ça remplit bien la définition du trophée, ce que Suzuki a fait. Mais quand tu regardes l'impact de Suzuki avec les Canadiens ou de Connor McDavid, qui n'a pas eu de vote de première place de personne, ou tous ceux qui ont eu un vote de première place, tu peux rajouter à tous ceux qu'on a nommés, Jack Eichel là-dessus... Il y a peut-être, comme tu dis, une certaine réflexion à faire pour l'an prochain.
Rapidement, là, à une autre époque, j'avais l'occasion d'envoyer mon bulletin de vote quand je travaillais pour le Journal de Montréal. Puis je me souviens que quand j'hésitais pour certains trophées, mais j'appelais des collègues. J'aurais pu appeler un collègue au Minnesota, appeler des personnes aussi dans le monde du hockey. J'ai déjà contacté des dirigeants d'une équipe avant de voter pour le Conn Smythe, qui est une autre histoire. Juste pour te rassurer dans ton choix. Mm-hmm. Puis peut-être, petit conseil, mais cette personne du Minnesota, mais s'il avait lâché un coup de fil du côté de Montréal, même à l'intérieur de l'équipe, je crois qu'il pouvait y avoir un débat, savoir qui était le joueur le plus utile entre Lane Hudson ou Nick Suzuki. Même Montembeau, qui a eu un vote de troisième place pour le Vezina de la part d'un DG, parce que le Vezina est voté et choisi par les directeurs généraux de la Ligue nationale. Donc, c'est juste une question de rigueur, puis tant mieux aussi qu'on dévoile les bulletins de vote des membres de l'Association professionnelle de hockey qui sont appelés à choisir 5 trophées parmi la liste des trophées.
Mais je vais le défendre sur une chose. son choix n'était pas un choix homer, un choix de vide d'équipe que tu couvres, qui est assez fréquent, merci, quand il vient le temps de remplir les bulletins de vote.
Mais souvent, Nick Suzuki, cinquième, OK.
Oui.
Mais premier.
Oui. Non, mais je veux dire, ça aurait pu être un vote de première place à Kirill Kaprizov, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, exact.
T'sais, là-dessus, moi, je vais le défendre, le journaliste, il n'a pas été homer. Mais bon, on lui laissera une meilleure chance la prochaine fois, comme on dit sur le rebord des verres de café de Tim Horton à un certain moment donné. Ça existe encore, le rebord? Je pense que c'est Internet maintenant, c'est avec une application, tout ça. Il n'y a peut-être plus le même plaisir qu'à l'époque.
On a-tu une commandite de Tim Horton?
On n'a pas, mais c'est un commanditaire de la Ligue. Et si ce l'est pas, je vais aller effacer tout ce bout-là du balado. Mais je suis pas mal certain que Tim Horton est un commanditaire de la Ligue, donc ça ne me dérange pas de les nommer et de les saluer. Moi, je bois pas de café. De toute façon, je suis un gars de chocolat chaud. Donc, je pouvais dérouler pareil. Hein? C'est ça. En tout cas.
Là, on se perd, les boys.
Justement, en parlant de se perdre, je vais vous laisser partir et aller vous perdre dans l'aéroport de Fort Lauderdale. Vous décollez directement de là, pas de...
Ouais, non, Fort Lauderdale. C'est pas très gros. Il n'y a pas grande chance de se perdre dans cet aéroport-là. Bon, mais
à Denver, par exemple. À Denver, vous avez pas
Denver,
mal de chance. L'aéroport de Denver,
merci de nous encourager.
Oui, je vais vous souhaiter bonne chance, les gars. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Chers auditeurs, merci beaucoup aussi à vous d'avoir été là. Et comme je le disais plus tôt dans le balado, l'aperçu du repêchage 2025 qui est disponible sur les plateformes de diffusion partout. Suivez-nous si jamais on a la chance de reparler à Guillaume et à GF d'ici. Si jamais il y a un septième match, c'est peut-être possible. Sinon, notre prochain rendez-vous, ça va aller après la fin de la finale. Un gros merci d'avoir été là et on se reparle à bientôt.